Entre-temps, entre nous, un partage de réflexions avec le doyen Philippe Capel-Dumont. Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 en compagnie du doyen Philippe Capel-Dumont, doyen honoraire de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, professeur des universités, professeur de philosophie à l'université de Strasbourg. Philippe, vous êtes à la fois prêtre et professeur de philosophie. Vous ne savez même pas si vous avez un collègue sur cette terre.
Sur cette terre, sûrement, si, il y a des prêtres philosophes. En France, professeur de philosophie dans l'université d'État, on est, je crois, assez peu nombreux, en effet.
Alors, j'ai une question pour vous, une question qui nous taraude aujourd'hui, parce qu'elle est véritablement au centre de tant de préoccupations pour tant d'hommes, c'est celle de la laïcité. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Quel sens donnez-vous à ce mot?
C'est un concept très pathologique, si vous voulez, dans la mesure où il suscite des réflexes contradictoires dans l'émotion, selon la situation que l'on a vécue. Je pense qu'il faut reprendre les choses très calmement. D'abord, éviter les confusions entre le mot laïque, laïcité, laïcisme, ce n'est pas la même chose. D'abord, la laïcité, c'est une histoire. Qu'on le veuille ou non, c'est un fait. C'est à l'ordre du fait, ça s'est véritablement passé. C'est une histoire compliquée qui naît en gros comme telle explicitement au 19e siècle. C'est vraiment le 19e siècle, les pères de la République, dans les années 1880, qui ont voulu, inspirés notamment par la philosophie des Lumières, mais pas seulement, on va le voir dans un instant, ont voulu établir des systèmes éducatifs, de formation, qui était concurrentielle avec l'Église quand même.
C'est une histoire très française.
C'est une histoire très française, même s'il y a aussi de la laïcité en Angleterre. Ce n'est pas véritablement la France qui a inventé, c'est quand même les Anglais qui ont d'abord inventé la laïcité. Et les Américains, quand je vais aux États-Unis, me font remarquer que c'est d'abord aux États-Unis qu'elle s'est trouvée appliquée. De fait, les Français ont quand même établi une laïcité assez ferme, stricte, sans doute trop stricte, et dont sans doute nous payons aujourd'hui une forme de facture, n'est-ce pas ? Alors, que s'est-il passé dans l'histoire ? Il y a eu deux seuils. Il y a eu d'abord un moment où l'État s'est déclaré incompétent en matière de religion, donc s'est retiré en quelque sorte, s'est désengagé à l'égard des religions, y compris instituées, institutionnelles, avec tout ce que ça représente de médiation juridique, financière, etc. Et en un second temps, très vite, notamment sous l'impulsion de gens comme Ferdinand Buisson, cette laïcité d'incompétence est devenue une laïcité de combat. Si vous voulez, pour prendre un jeu de mots qu'il me plaît de faire souvent, on est passé de la neutralité à l'égard de la religion à la neutralisation de la religion. Et c'est pas la même chose.
C'est grave, ça.
C'est pas la même chose. La neutralisation, c'est 1905. On a voulu expulser le phénomène religieux des sociétés. D'ailleurs, je citais Buisson, mais on pourrait en citer bien d'autres. On considérait en effet que la République n'ayant rien à voir avec la religion, il fallait mettre en difficulté tous les systèmes d'enseignement, voire chasser d'ailleurs les congrégations religieuses. Et vous savez que dans les années 1905, on a chassé de fait de France des congrégations religieuses, notamment d'enseignement. Alors, la laïcité a produit ses propres dogmes, a considéré qu'elle devait en effet être le seul arbitre des vérités, comme il y a eu soi-disant des guerres des religions, les religions étant porteuses de violence, il fallait un autre espace laïque pour créer la paix civile, ce qui d'ailleurs au passage est un mauvais coup porté à l'histoire. Je fais une petite parenthèse, qui n'en est pas vraiment une d'ailleurs. Actuellement, des travaux sont commis en manière de réévaluation sur ce qu'on appelait les guerres de religion. Et on sait très bien, et de mieux en mieux, que les guerres de religion n'ont pas été faites par les religions, le plus souvent. Bien sûr que les religions ont... Mais les guerres de religion ont été souvent une manière d'instrumentaliser la religion pour des motifs politiques.
C'était au fond des guerres de conquête habillées par des motifs religieux.
Exactement.
Par exemple, les croisades.
Par exemple, et on a instrumentalisé les religions... Non, pas toujours, mais souvent. Donc les guerres de religion sont le plus souvent des guerres politiques déguisées en guerres de religion. Alors lorsque la laïcité se présente comme le paradigme qui va enfin apaiser les guerres de religion, je pense que préalablement il faudrait faire, d'ailleurs ce qui se fait maintenant avec une nouvelle génération d'historiens, réévaluer ce qu'il en fut exactement de ce que l'on appelle de façon trop superficielle les guerres de religion. Alors aujourd'hui, nous vivons sans aucun doute une nouvelle étape de l'histoire de la laïcité. On voit bien que ça ne suffit plus. Le discours du président Sarkozy au Latran en est un symptôme. Il y a d'autres symptômes, mais on voit bien que l'espace laïque doit lui-même susciter des contributions religieuses. Vous vous rappelez peut-être que c'est François Mitterrand qui avait demandé à l'inspecteur général Joutard de faire un rapport afin que les systèmes d'enseignement républicains français intègrent les données religieuses pour comprendre tout simplement simplement son propre héritage et son propre passé.
Mais sinon, on ne peut plus avoir de référence, je dirais, en art, en littérature, la poésie, c'est effrayant.
Que voulez-vous comprendre aux vitraux de Chartres ? Même d'ailleurs, quand vous demandez quelquefois à certains lycéens autour de vous, collégiens, qu'est-ce que la Trinité ? Ils vous répondent volontiers que c'est
une église à Paris.
Une station de métro. Donc le problème est certainement la compréhension de notre histoire, et de fait, nous vivons aujourd'hui une laïcité plus ouverte. Alors, c'est une histoire qui, aujourd'hui, est en quelque sorte désacralisée. On voit bien quand même que les historiens s'efforcent d'être un peu plus honnêtes avec la façon dont la laïcité s'est élaborée, et parfois elle s'est élaborée dans la violence. J'évoquais l'expulsion des congrégations religieuses, mais la laïcité n'est pas pure. Elle est entachée de moments de très grande violence, de négation de l'autre. Et donc, une laïcité aujourd'hui qui veut conquérir ses titres doit pouvoir laisser la place à d'autres paradigmes.
Philippe, moi j'ai une question quand même aujourd'hui. Dans l'affrontement des religions qui semble se faire jour, est-ce que la laïcité n'est pas une garantie au fond d'une forme de paix dans la République ?
Alors, à cet égard, c'est certainement le plus grand des défis, parce que la laïcité doit honorer deux versants apparemment contradictoires. D'abord, la laïcité assure la liberté de conscience, jusqu'en dans l'absolu, c'est-à-dire quelqu'un qui dit croire en n'importe quoi, si je puis dire, doit pouvoir l'exprimer. Ça fait partie de l'espace
des
libertés absolues de conscience, n'est-ce pas ? On doit pouvoir penser ce que l'on veut et dire, dans la mesure où cela ne gêne pas évidemment la liberté de l'autre, dire ce que l'on ressent, vit, éprouve, expérimente. Et deuxième versant, la laïcité doit garantir la paix civile, précisément. Et donc, comment tenir ensemble l'expression personnelle qui peut aller jusqu'une parole d'absolu et la paix civile qui suppose précisément l'instauration de limites dans cette expression. Donc on voit bien que d'un côté, on est dans la parole de l'absolu, et ensuite la gestion relative de tout cela. Et donc c'est parce que, précisément aujourd'hui, on voit bien que les démocraties sont fragilisées, tous les espaces sociaux sont fragilisés, on voit bien que les hommes politiques sont en demande auprès des religions d'une capacité, au fond, de contribuer à une sagesse sociale. Alors c'est très nouveau que les religions soient en mesure, en capacité de contribuer sous le mode de la sagesse à la construction de l'espace social. C'est une question nouvelle, on n'y pensait pas vraiment, n'est-ce pas ? Et donc c'est très intéressant à observer. Je pense qu'il faut absolument que les religions attestent de cette capacité, faute de quoi on ne se trouvera que devant des conflits d'opinion qui peuvent aller jusqu'à la violence.
Mais justement, n'y a-t-il pas un danger dans la mesure où certaines religions sont plus conquérantes que d'autres ? N'y a-t-il pas un danger à un relatif abandon de la laïcité ?
Vous posez là une question qui est d'une très grande difficulté, très grande profondeur, dans la mesure où la laïcité, contrairement à ce que l'on entend parfois, a ses origines non pas simplement dans la philosophie des Lumières, mais très loin, à ses racines dans ce que le christianisme a permis. Je ne dis pas que le christianisme a promu la laïcité. C'est-à-dire qu'il est, par son paradigme notamment de la distinction entre le temporel et le spirituel, qu'il a porté quand même. On peut toujours dire qu'on trouve quelquefois certaines de ces distinctions dans le grec, etc. C'est quand même le christianisme,
rendez
à César ce
qui
est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, qui a porté au plus loin la conséquence logique de ce paradigme, n'est-ce pas ? Et donc ce paradigme est doux, puisque d'un côté on a l'autonomie du temporel, mais aussi l'autonomie du spirituel. Et donc il est très remarquable que le christianisme ait tout fait pour que la vie sociale fasse naître l'autonomie du spirituel. Je fais simplement une petite remarque. On ne prête pas suffisamment attention au fait que la ritualité du mariage dont nous parlions la semaine dernière, les rites, n'est-ce pas ? Le rite du mariage existait avant le christianisme. Mais que fait le christianisme lorsqu'il christianise précisément le mariage ? Il demande à ce que la jeune épouse puisse se prononcer librement, publiquement, et non plus simplement dans le réseau familial. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'autonomie du spirituel. C'est l'autonomie de la conscience. Ça, c'est du christianisme. Et donc, porter ainsi l'autonomie de la spiritualité, de la conscience, c'est une des choses certainement qui doit pouvoir être un critère jugeant des religions aujourd'hui, me semble-t-il.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer très prochainement ? Parce que nous avons quand même encore une fois un affrontement de certaines religions. Nous avons le christianisme qui est assez pacifique, on va le dire, d'autres religions beaucoup plus conquérantes, d'autres égales à elles-mêmes, comme le judaïsme, égal à lui-même. Qu'est-ce qui va se passer dans tout cet affrontement, dans tout ce remue-ménage et ce remue-ménage ? C'est assez effrayant parce qu'en fait, quand on parlait de religion, on avait l'impression d'une élévation vers Dieu. Et aujourd'hui, on a l'impression d'affrontements qui sont véritablement très, très humains, très physiques et très inquiétants.
Je dirais même que ces affrontements sont destructeurs à l'intérieur même des religions. Je serais frappé de voir qu'à l'intérieur même de certaines familles religieuses, on s'entretue. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est en jeu ? C'est pas tellement l'avenir des religions, etc. C'est la souffrance des gens, la souffrance des personnes. Quand vous voyez des enfants ou des femmes qui sont tués dans des attentats déchiquetés, enfin, si vous voulez, c'est pas la guerre entre des religions ici qui est en jeu. C'est à l'intérieur même de certaines religions, on s'entretue, on se détruit. Et en même temps, il y a à l'intérieur de certaines familles religieuses, maintenant, tenons compte aussi du fait qu'il y a des familles spirituelles très élevées. Je pense par exemple à l'intérieur de l'islam, moi le soufisme, par exemple, qui est une famille spirituelle très élevée à l'intérieur de l'islam, qui a vraiment des mystiques, une histoire de la mystique très très développée, qui n'a pas du tout d'intention politique forte, si vous voulez. Donc il y a un islam spirituel, parce qu'il y a une demande des musulmans de spiritualité, comme de tout homme, n'est-ce pas ? Ce qui est inquiétant, c'est qu'un islam politique est aujourd'hui une parole majoritaire dans l'espace social, au détriment d'un islam qui est beaucoup plus spirituel et qui s'ouvre. D'ailleurs, je suis très frappé de voir que dans certaines villes du Moyen-Orient, en Syrie, etc., les musulmans fêtent Noël volontiers. Une espèce de reconnaissance de l'altérité, parce que l'homme a besoin de générosité, de bonté, qu'il soit musulman, hindouiste ou chrétien. Il est demandeur en désir de bonté, de générosité, de reconnaissance de l'autre. Et la question est de savoir si le cadre religieux qu'on lui impose ferme cette possibilité inscrite en lui.
Philippe, il y a eu une période où le christianisme était également conquérant, comme l'islam aujourd'hui.
Bien sûr qu'il l'a été. Il l'a été d'ailleurs moins en tant que christianisme, en tant qu'instrumentalisé par des forces politiques, comme nous le disions l'autre jour. Mais de fait, l'injonction de Jésus, aller dans toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, etc., a pu être aussi pratiqué avec une certaine violence, indéniablement. Cette violence n'a rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui, n'est-ce pas ? Par exemple, ce qu'on appelle l'Inquisition, etc., ce sont, d'après ce que disent les historiens, quand on y regarde sérieusement, l'Inquisition aurait provoqué, en tant que telle, 3500 morts. On est loin des 80 millions du goulag, on est loin des attentats terroristes à 50 la semaine, si vous voulez, depuis des décennies. Ceci ne doit pas consoler absoudre le christianisme de ses propres péchés, et c'est pourquoi, vous l'avez observé, les papes, Jean-Paul II, Benoît XVI, n'ont quand même pas hésité à poser des gestes forts de pardon. Alors, on a pu critiquer ces gestes, mais ce sont des moments de l'histoire qu'il fallait absolument gérer. Il fallait poser ces actes. Ils sont posés, ça y est, c'est fait, d'une certaine manière, et je crois qu'ils sont sincères. De la part de Jean-Paul II, de la part de Benoît, ils sont sincères, ils sont profonds. Ce sont même des gestes de souffrance, puisque l'Église doit relire sa propre histoire. Et en même temps, ils sont libérants.
Alors c'était, entre-temps, entre nous, un partage de réflexions avec le doyen Philippe Capel-Dumont. Merci et à bientôt.